Si on a un peu laissé le Covid derrière nous, ses conséquences se font toujours sentir pour les personnes exilées. Avec Marion, on a pu échanger là-dessus avec Manon, salariée à la CIMAD, pour qu'elle nous parle de la situation des personnes exilées à Rennes.
Une soirée débat organisée par la CIMAD, SOS Méditerranée et Coupeskem qui aura lieu ce jeudi 5 mai à partir de 18h30 à l'ancien Antipode. Et on va échanger sur cet événement avec toi, Manon. Tu es salariée et intervenante juridique au centre de rétention de Rennes. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. On vient de le dire, tu fais partie de la CIMAD. Et en quelques mots, pour présenter ce qu'est la CIMAD, vous dites que son but est de manifester une solidarité active avec les personnes opprimées et exploitées et de défendre la dignité et les droits des personnes réfugiées et migrantes, quelles que soient leurs origines, leurs opinions politiques ou leurs convictions. Et toi, depuis combien de temps t'es-tu engagée à la CIMAD et pourquoi est-ce que ces valeurs, elles résonnent chez toi ?
Alors moi, je suis engagée à la CIMAD depuis plusieurs années. J'ai commencé notamment à la CIMAD à Mayotte, parce que la CIMAD, c'est une association qui est présente aussi dans les départements d'outre-mer. Donc j'ai été d'abord stagiaire à la CIMAD à Mayotte et ensuite je suis arrivée à Rennes et j'ai commencé mon travail d'intervenante juridique puisque la CIMAD elle est présente dans plusieurs centres de rétention administrative en France. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à la CIMAD à Rennes. Et moi j'ai voulu m'engager à la CIMAD parce que la cause de la défense des droits des personnes étrangères, c'est une cause qui me tient à cœur. Et être membre de la CIMAD, pour moi, c'est quelque chose d'important parce que la CIMAD, c'est une association qui porte des revendications politiques sur l'accueil des personnes migrantes. Et du coup, c'est... Le projet politique de la CIMAD était en adéquation avec mes valeurs, donc c'est comme ça que je me suis retrouvée là-bas.
Et là, on parle un petit peu des valeurs de la CIMAD, mais si on parle maintenant de ton quotidien, de ton travail au quotidien à la CIMAD, tu es salariée, mais surtout intervenante juridique au centre de rétention de Rennes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les situations auxquelles tu es confrontée ? Quel est ton rôle justement à la CIMAD par rapport à ça ?
Ok, alors du coup, je peux peut-être expliquer brièvement ce que c'est un centre de rétention administrative, parce que c'est quelque chose qui est assez méconnu. Donc un centre de rétention administrative, c'est un centre qui ressemble beaucoup à une prison, mais qui n'en est pas une. C'est un centre dans lequel on enferme des personnes étrangères qui sont en situation irrégulière, dans le but de les expulser de force vers leur pays d'origine. Et donc du coup c'est vraiment une privation de liberté un peu particulière parce que c'est une privation de liberté administrative, c'est-à-dire qu'on reproche à des personnes simplement le fait d'être en situation administrative irrégulière sur le territoire. Moi mon travail en tant qu'intervenante juridique c'est d'accompagner les personnes au sein du centre de rétention pour leur permettre d'exercer leurs droits, donc de faire des recours contre les décisions prises par la préfecture à leur encontre, et aussi en étant du coup accompagnatrice juridique à la CIMAD, j'ai aussi des missions de témoignage. Enfin, le but est d'essayer de faire témoigner les personnes qui sont enfermées pour faire sortir un peu des murs du centre de rétention ce qui se passe au quotidien. Donc par le biais de recueils de témoignages, d'actions de sensibilisation, de mobilisation politique, etc. Voilà.
Et maintenant, on va aussi se concentrer sur la soirée débat que vous organisez, la crise de l'accueil à l'ombre du Covid. Et à ce sujet, en 2020, la CIMAD s'est mobilisée avec également SOS Méditerranée, le laboratoire AREN et Coupeskem pour documenter et analyser la situation des personnes exilées au regard de la crise sanitaire. Comment avez-vous procédé toutes ensemble pour effectuer ce travail de recherche ? Et toi, quelle a été ta part dans ce travail ?
Alors effectivement, on a commencé ce travail en commun avec SOS Méditerranée et le groupe de recherche COPESCEM, donc au début de la crise sanitaire, parce que donc, la CIMAD a travaillé déjà à Rennes avant 2020 avec SOS Méditerranée. On avait déjà organisé une soirée et on avait pour projet de continuer, et comme on était en plein contexte de crise sanitaire, on a décidé de choisir comme thème l'impact de la crise sanitaire sur la situation des personnes exilées à Rennes. Et du coup, on a été sollicité par le groupe de recherche COPESCEM Basecamp parce qu'ils travaillaient justement sur ce sujet en particulier, notamment sur l'impact de la crise sanitaire sur les droits fondamentaux des personnes exilées, donc que ce soit le droit à l'hébergement, le droit à l'alimentation, le droit à la santé, à l'accès aux droits. Et comme on travaillait sur les mêmes sujets, on a voulu travailler en commun. À l'origine, on voulait faire une soirée, mais ça a été reporté maintes et maintes fois à cause de la crise sanitaire. Donc on s'est dit, ben, en attendant, on a quand même envie de diffuser tout ce qu'on a collecté comme témoignage. Donc on a procédé à des... Ça a été des enregistrements de podcasts, d'interviews, de vidéos avec des personnes exilées. Donc ça a été le témoignage de personnes exilées elles-mêmes, mais aussi de toutes les associations rennaises de solidarité envers les personnes exilées, à qui on a proposé de témoigner de comment elles se sont adaptées elles aussi pendant la crise sanitaire. Et tout ce contenu, du coup, en attendant de pouvoir faire une soirée, on l'a diffusé sur une page Facebook qui s'appelle Humanité en quarantaine. Et là, maintenant que la crise sanitaire se tasse un petit peu, on a décidé de faire une soirée. Donc il y en a eu une la semaine dernière déjà. Ça a été plutôt animé par COPESCAM où ils ont présenté les résultats de leurs recherches. Et puis ce jeudi, c'est plutôt animé par la CIMAD et SOS Méditerranée pour parler de l'impact de cette crise sur l'accès aux droits des personnes étrangères.
Quand vous êtes allé collecter les témoignages auprès des personnes exilées, est-ce que vous avez été confronté à des réticences parce que c'est des sujets des fois sensibles, ou est-ce qu'au contraire les personnes elles étaient contentes d'avoir la possibilité d'être entendues sur leurs conditions de vie et d'accueil ?
Alors du coup, c'était pas moi. Enfin, moi j'étais pas encore à la CIMAD quand ça s'est fait, mais ce que je sais c'est que le groupe de recherche COPESCAM, en fait, ils font une recherche participative, donc ils travaillent déjà avec un certain nombre d'associations rennaises, et donc du coup, ils ont facilement trouvé des personnes qui ont accepté de témoigner. J'imagine qu'il y a pu avoir des réticences sur, par exemple, des personnes qui ne voulaient pas témoigner à visage découvert. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu des enregistrements sonores, il y a eu des vidéos pour les personnes qui acceptaient, elles, qu'on voit leur visage. Mais par expérience, je sais qu'on trouve quand même facilement des personnes qui ont envie de parler de ce qu'elles vivent. Donc c'est pour ça qu'il y a eu quand même pas mal de témoignages récupérés. Ouais.
Et ces témoignages ont été récupérés du coup pendant la crise sanitaire. La crise sanitaire, c'était une période d'incertitude pour un grand nombre d'entre nous, mais c'était aussi une période qui a fragilisé les droits des personnes exilées. Est-ce que personnellement, tu dirais que la crise sanitaire a en quelque sorte fait passer au second plan les droits des personnes exilées et fait oublier un temps leur vécu, que finalement on ne s'est pas assez concentré sur ça justement pendant ces deux années de crise ?
En fait, ça a été un peu... justement, la crise sanitaire, pendant un moment, il a été question de mettre à l'abri tout le monde. Donc il y a eu ce qu'on appelle un peu l'inconditionnalité des droits. Donc c'était une période, surtout pendant le confinement, le premier confinement, c'était une période où il y a eu quand même des choses qui ont été mises en place pour permettre une mise à l'abri des personnes exilées qui vivaient à la rue, leur permettre de pouvoir accéder à de la nourriture, etc. C'est quelque chose qui a été fait par les services étatiques en collaboration surtout avec beaucoup d'associations qui se sont démenées sur le terrain. Mais ce qu'on a observé, c'est que ça a été quelque chose de très temporaire, que même si la crise elle a perduré pendant presque 2 ans, ces choses-là, elles ont été mises en place pendant le premier confinement, mais ça s'est pas forcément pérennisé par la suite, alors que la situation des personnes est restée la même. Sur l'accès aux droits, c'était la même chose. Il y a eu des mesures un peu exceptionnelles de prolongation des titres de séjour pour les personnes qui ne pouvaient pas accéder à la préfecture, tout ça. Mais ça a duré un temps. Et puis après, les personnes se sont retrouvées aussi en grande difficulté, quoi.
Donc un temps, elles ont été mises à l'abri et puis finalement après, tout était redevenu comme avant. Mais surtout pendant les confinements successifs, elles ont aussi, ces personnes exilées ont été invisibilisées. Et aujourd'hui, vous apportez un travail qui a été mené après et qui permet de revenir sur ce qu'elles ont vécu. Pourquoi c'est nécessaire d'en parler maintenant? Qu'est-ce que ça peut nous apprendre, nous apporter?
Bah en fait, on a trouvé que ça pouvait être intéressant d'en parler après parce que, alors sur la partie que moi je connais beaucoup à la CIMADE et de par mon poste d'intervenante juridique en rétention, c'est que ce qu'on a pu observer, c'est déjà, comme je le disais avant, on a voulu protéger des personnes, mais pas toutes, parce que il faut savoir que les centres de rétention administrative, ils sont restés pour la majorité ouverts pendant la crise sanitaire. Donc ça posait déjà question de qui on décide de protéger et qui on ne veut pas protéger. Et en fait, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a eu un certain nombre de pratiques, donc l'invisibilisation des personnes, la criminalisation des personnes étrangères, des pratiques qui existaient déjà avant la crise sanitaire, mais qui ont été particulièrement exacerbées et accélérées pendant cette crise. Et qui du coup laisse des traces, même deux ans après. Et du coup, pour nous, c'était quand même pertinent d'en parler même deux ans après, parce que il y a des conséquences on voit encore les conséquences de cette crise aujourd'hui, quoi.
Et est-ce que donc tu peux nous parler plus particulièrement au centre de rétention et au centre de rétention de Saint-Jacques-de-la-Lande, c'est quoi les conséquences sur les conditions de vie vraiment des personnes qui sont détenues à cause de la crise sanitaire?
Alors il y a plusieurs choses. Alors déjà, pendant au tout début de la crise sanitaire, la particularité, c'est que le CRA de Saint-Jacques-de-la-Lande, il a fermé pendant 3 mois, mais c'est un des seuls CRA qui a fermé pendant le premier confinement. Et donc il a fermé pendant 3 mois, mais il a très vite réouvert alors que la crise sanitaire était pas du tout, enfin la situation n'était pas du tout stabilisée. Et donc du coup il y a des clusters qui se sont déclarés à Rennes, mais comme dans d'autres centres de rétention, parce qu'évidemment c'est un lieu d'enfermement dans lequel la proximité entre les personnes est très grande. Et donc du coup, même s'il y a un protocole sanitaire qui a été mis en place à l'intérieur du centre de rétention, bah, ça n'a pas permis d'empêcher la propagation du virus. Donc en fait, ça a rajouté un stress supplémentaire pour les personnes qui étaient déjà enfermées dans des conditions difficiles, avec le stress, l'angoisse d'être expulsée à tout moment, et en plus de contracter le virus. Donc ça a été particulièrement difficile. Et après, quelque chose qui a changé et qui est particulièrement symptomatique de cette crise, c'est que au centre de rétention, donc les personnes qui se font expulser, elles sont généralement expulsées par avion. Et en fait, avec la crise sanitaire, les pays d'origine des personnes ont demandé, comme pour tout le monde, de réaliser des tests Covid avant de pouvoir prendre l'avion. Et donc du coup, on a commencé à proposer aux personnes qui avaient un vol de réaliser un test Covid, donc un acte médical que les personnes sont en droit d'accepter ou de refuser. Et pour celles qui décidaient de refuser, puisque au final, accepter de faire le test, c'est accepter de collaborer à son départ, alors que quand on est opposé à son expulsion, c'est un peu compliqué. Et en fait, les parquets ont commencé à poursuivre pénalement toutes les personnes qui refusaient de réaliser des tests Covid. Et donc, en fait, depuis 2020, on observe quelque chose qui n'existait pas du tout avant, c'est des personnes qui sont incarcérées en prison pour parfois 2 mois, 3 mois plus pour avoir refusé de faire un test PCR, parce qu'on considère que c'est qu'elles essayent d'empêcher l'exécution de leur décision d'expulsion. Et donc ces personnes font des allers-retours entre le centre de rétention, la prison, quand elles sont condamnées. À la fin de leur peine de prison, elles reviennent au centre de rétention. Si elles refusent le test, elles repartent en prison. Et du coup, ça fait des périodes d'enfermement très très prolongées. Et puis surtout, des condamnations pénales simplement pour un refus de test Covid, donc ce qui est assez hallucinant. Donc voilà, il y a eu ça. Il y a eu aussi le fait que pendant la crise sanitaire, les juridictions ont recouru massivement à la visioconférence pour faire des audiences. Donc ça aussi, c'est très très questionnant sur le plan des droits fondamentaux des personnes, parce que du coup les personnes ont été un peu mises à distance de la justice. Elles ont même eu la possibilité d'être face au juge, d'être emmenées au tribunal, d'échanger face à face avec leur avocat. Elles ont juste été mises dans une petite salle avec une visioconférence pour assister aux audiences. Et puis plus généralement aussi la crise sanitaire, parce que pendant toute la crise sanitaire, il y a un certain nombre de frontières qui ont fermé. Les frontières, des pays d'origine des personnes qui étaient enfermées. Et pour autant, l'État français a continué à enfermer les personnes dans les centres de rétention, alors même qu'elles savaient qu'elles ne pourraient pas être expulsées. Et pour nous, ça a révélé encore plus le fait que cet enfermement, il sert surtout à punir les personnes, à montrer qu'on agit contre l'immigration clandestine, mais il ne sert pas tant à expulser parce qu'ils ont continué à enfermer des personnes alors qu'ils savaient pertinemment qu'ils ne pouvaient pas les expulser. Donc voilà.
Et maintenant, si on revient un peu à la soirée débat, la crise de l'accueil à l'ombre du Covid, à travers cette soirée, vous voulez tenter de nous interroger sur l'enfermement, l'invisibilisation et la criminalisation dont tu parlais tout à l'heure. Ce sont des pratiques que vivent les personnes exilées. Et vous allez aller plus loin aussi à travers la question que vous posez, comment la crise sanitaire nous amène-t-elle à repenser notre accueil des personnes exilées ? Et en ouvrant le débat, pour nous amener à réfléchir, comment vous voulez tenter de répondre à ces interrogations ? Sur quoi allez-vous vous appuyer ?
Ça justement, c'est l'idée, c'est de pouvoir échanger avec toutes les personnes qui seront présentes jeudi. On espère qu'il y aura des membres de plusieurs associations rennaises qui travaillent dans ce domaine, mais aussi des personnes qui ne sont pas forcément directement concernées. Et le but, c'est d'essayer de trouver des solutions ensemble, quel type de mobilisation on peut mettre en œuvre. C'est vraiment à discuter ensemble, donc j'ai pas forcément des...
Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant au travers de cette soirée ? Est-ce que vous avez des témoignages précis, par exemple, que vous avez recueillis, que là, c'est le moment où vous allez le mettre en lumière ?
C'est ça, on va diffuser un certain nombre de témoignages de personnes retenues, parce que c'est vraiment une parole qui est invisibilisée et qui est peu entendue, donc on a vraiment prévu d'en diffuser et de parler ce qui se passe concrètement dans les centres de rétention et même plus largement de ce qui s'est passé en termes d'accès aux droits pour les personnes étrangères pendant la crise sanitaire. Et puis du coup, si ça peut nous permettre de faire des constats et de réfléchir à la suite. Après, la CIMAD, nous, depuis des années, ce qu'on demande et on milite pour la fermeture pure et simple des centres de rétention, parce que pour nous, c'est des lieux qui n'ont pas lieu d'être, et sur l'accueil digne des personnes. Et puis, l'idée aussi, c'est des constats qui ont été faits dans la crise sanitaire, de ce qui a été mis en place, l'inconditionnalité, on a mis à l'abri de manière inconditionnelle des personnes, ça a été possible pendant la crise sanitaire, et du coup, l'idée serait de dire aussi pourquoi on ne peut pas continuer comme ça, puisque ça a été fait, quoi.
Merci Manon, merci d'être venue. On vous rappelle que l'événement pour lequel tu es venue, la crise de l'accueil à l'ombre du Covid, se déroule ce jeudi de 18h30 à 20h30 à l'ancien Antipode, aux 2 rue André Trasbeau à Clenay.
Merci.
Merci beaucoup.
Et merci Marion.